Comment on en parle est un podcast qui s'intéresse à la manière dont sont traitées différentes situations préoccupantes au sein de notre société, avec des invités qui possèdent des expériences significatives sur les différents sujets. Dans cet épisode, nous abordons l'handicap avec
Jenny Francard.
Premièrement, Jenny, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi.
Jenny, toi, tu vis avec un handicap.
Oui.
Est-ce que tu veux me parler un petit peu de ton histoire à toi puis de comment c'est arrivé?
C'est arrivé quand je suis rentrée au secondaire. J'avais 12 ans. J'ai commencé à avoir des pertes d'équilibre. Quand je marchais, je tombais souvent. Puis, il fallait que je me tienne sur les murs. Puis ça a duré, je te dirais, pendant 4 ans, ça a été stable. C'était juste, je tombais une fois de temps en temps. Mm-hmm. Mais à chaque année, c'était un peu plus souvent.
OK.
Fait que à 16 ans, j'ai décidé d'aller voir mon médecin de famille. Puis je lui ai parlé, tu sais, de tous les symptômes que j'avais.
Mm-hmm.
Puis elle m'a dit... je sais pas exactement c'est quoi que t'as, mais ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà entendu parler.
Okay.
Donc, elle a pris rendez-vous avec moi. Elle a pris un rendez-vous pour moi avec un généticien de Montréal,
okay,
le docteur Guy Rouleau. Puis, lui, elle m'a fait passer plein d'examens. Puis, c'est ça. J'ai eu mon diagnostic à 19 ans, en fait.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, ils m'ont dit que j'avais l'ataxie de Friedreich. Puis jusqu'à mes 26 ans, où je suis allée au centre Lucie Bruno, et là j'ai vu un autre, un spécialiste dans les ataxies.
Mm-hmm.
Et lui m'a fait d'autres examens. Puis finalement, ce qui est sorti, le résultat de ça a été que j'ai l'ataxie. Mais j'ai l'ataxie avec apraxie oculomotrice de type 2.
OK.
C'est-à-dire que mes yeux et ma tête ne sont pas ensemble.
OK.
Sont pas, tu sais, je tourne ma tête, mais mes yeux ne vireront pas en même temps que okay. ma tête tourne.
OK. Donc, c'est la spécificité.
C'est
ton ataxie à toi.
Oui.
Puis l'ataxie en tant que telle, qu'est-ce que ça fait?
C'est une dégénérescence des muscles, des nerfs.
Mm-hmm.
Ça a commencé par mes jambes.
Mm-hmm.
C'est pour ça que maintenant, je suis en fauteuil roulant parce que je suis pas capable du tout de marcher ou même me tenir debout. Il faut que je sois en appui sur quelque chose. Ça affecte un peu mon élocution.
Mm-hmm.
Ça affecte aussi, justement, quand si je tourne la tête trop vite,
ouais,
je vais devenir étourdie parce mm-hmm. que mes yeux ne suivent pas. Fait.
Mm-hmm.
Puis j'ai aussi un nystagmus. Un nystagmus, c'est les yeux qui oscillent tout le temps.
Okay.
C'est qu'ils ne restent pas droits. Mes yeux vont toujours avoir un petit mouvement.
Donc, pour ta vision, est-ce que ça...
Des fois.
OK. Des
fois, ça... Surtout pour la lecture.
Mm-hmm.
Je vois comme... Ça mm-hmm. m'arrive de relire la même ligne okay. une deuxième fois.
Deux fois.
Mm.
Donc, c'est les symptômes qui viennent avec ton diagnostic. Donc, tu es en fauteuil roulant, comme tu disais, depuis l'âge de...
21 ans.
Depuis l'âge de 21 ans.
Oui.
Et là, ta réalité a changé. Et maintenant, tu peux témoigner avec nous un peu de ce que c'est que d'aborder le sujet de l'handicap, du regard des autres sur l'handicap aussi. Tu me disais des choses intéressantes là-dessus. Puis de comment c'est abordé également en société. Premièrement, comment ça a teinté les interrelations pour toi?
Moi, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Les gens que je connaissais avant d'avoir un fauteuil roulant sont restés les mêmes avec moi. Mmh. J'ai pas vu de changement dans leur comportement ou leur façon de me parler ou d'être avec moi. J'ai pas vu de... pas dans mon entourage, en tout cas.
Donc, tu avais une certaine aisance à aborder ces sujets-là avec eux.
Oui.
Tu me disais tout à l'heure que des fois, c'est plus difficile, en fait, à aborder avec soi-même.
Des fois, tu... Ben, moi, personnellement, j'ai souvent eu des épisodes de dépression à cause de la maladie. Mais malgré ça, tu peux en témoigner, j'ai une vie bien remplie,
oui,
malgré tout.
C'est ça, parce que tu disais que justement, c'est la façon dont on l'aborde avec soi, la façon dont on se perçoit, la relation qu'on a avec nous-mêmes. T'as appris énormément à t'aimer, à te valoriser et à te lancer dans l'action.
Oui, j'ai beaucoup appris à me foutre des autres, penser à moi en premier, à ce que je veux, puis à ce que je veux pas, puis aussi, tu sais, moi, je suis à l'Association des personnes handicapées, puis ça me dérange pas d'être avec du monde qui ont des déficiences intellectuelles ou des problèmes de santé mentale, parce que, tu sais, je fais ce que je veux. Puis ce que je fais, c'est pour moi. Mm-hmm. C'est pas pour les autres. Mm-hmm. Fait que, oui, je me fous de ce que les autres pensent.
Ouais, ouais, c'est ça. T'as dépassé un peu ce regard-là des autres pour pouvoir vivre plein d'expériences. Et là, quand on dit que tu vis plein d'expériences, c'est parce que t'en as fait beaucoup de choses. Fais-tu nous dire un peu tout ce que t'as fait malgré ton handicap?
Premièrement, côté études, j'ai fait mon DEC en sciences humaines, ici au Cégep de Gaspé. Ensuite, je suis déménagée à Québec pour aller à l'université.
Mm-hmm.
Et puis, j'ai fait une année en criminologie. Puis, je suis revenue ici. J'ai fait une année en archives médicales. Après ça, j'ai lâché archives médicales parce que j'ai vu que finalement, c'était pas trop mon domaine, non. Puis après, j'ai suivi des cours en ligne, des cours de droit. Ça aussi, j'ai fait une année en droit. Puis je suis arrêtée parce que finalement, j'ai vu que c'était vraiment beaucoup de travail.
Ouais. Mais t'aimes apprendre.
Oui, c'est ça. J'aime apprendre plus que dire « on va faire ça parce que je veux un métier là-dedans. Tu » sais.
Oui, ouais, c'est ça. C'est pour apprendre.
J'aime apprendre plein de choses. Côté vie en dehors des études, j'ai fait du parachute.
Ah oui.
Je vais en refaire encore, c'est sûr. J'ai fait beaucoup de voyages aussi. Je suis allée en République dominicaine, à Cuba, au Mexique, à Las Vegas, je suis allée au Minnesota, je suis allée au Kentucky. Fait que je me suis quand même promenée beaucoup.
Oui.
Puis présentement, je fais de la boxe. J'ai commencé à prendre des cours de boxe parce que c'est quelque chose qui me fait du bien, qui justement, tout le côté colère que j'ai encore malgré toutes les années, la colère que j'ai à cause de la maladie.
L'impuissance, j'imagine, des fois. Là,
Ben, je peux la sortir, là. Ouais. Tu sais, je peux me défouler sur les punching bags.
C'est la bonne place.
Ouais.
Ouais, c'est
puis cool. Je vais au gym, salle d'entraînement. Puis avant, j'allais à la piscine, mais là, elle est fermée pour les rénaux.
Ouais.
Mais ouais, j'allais
à la piscine. Piscine également. Puis, t'es une artiste?
Oui, je fais de la peinture.
Puis, tu fais vraiment des belles toiles.
Ah, oh, merci.
Ouais, avec une technique de pouring, hein, qu'on appelle.
De pouring.
Oui. Puis, tu es impliquée également à l'Association des personnes handicapées, dont on parlait tout à l'heure. Tu es sur le CA.
Oui, je fais partie du conseil d'administration de l'association.
Ouais.
Je suis aussi impliquée sur le comité de la politique famille et aînés à l'hôtel de ville. Fait que je suis pas mal impliquée dans... les choses pour que, justement, des choses pour les personnes handicapées change.
Pour oui, t'es beaucoup impliquée plus... pour les droits des personnes handicapées. Oui, oui. Et ça, on va en parler certainement dans quelques minutes. Juste avant, là, revenir sur un... quelque chose que tu as dit que je trouvais très intéressant. Tu as parlé tout à l'heure de se foutre un peu de ce que les gens pensaient.
Mm-hmm.
De faire fi de ce que les gens
oui.
pensaient.
Oui.
Puis est-ce que tu as déjà remarqué que des gens t'abordaient différemment parce que tu avais un handicap, tu as ta maladie?
Oui, ben justement, des fois, je peux me promener quelque part, puis les gens, je trouve qu'ils s'éloignent de moi.
Mm-hmm.
On dirait qu'ils ont peur du fauteuil roulant ou de je sais pas quoi, mais c'est, mm-hmm. je sens ça beaucoup, puis ça me peine.
Oui.
Ouais, oui. Parce que je sens que je suis... Ben, pas juste moi, non, mais les autres aussi qui ont un fauteuil. On dirait qu'on on est en marge de la société.
Mm-hmm.
On est à part, tu sais, on est une autre classe.
C'est ça le sentiment puis, que ça ouais, fait.
C'est, ça me fait de la peine un peu. Parce que, je dis, des gens fauteuil roulant, on est comme tout le monde, là.
Mm-hmm.
Tu sais, on a une tête pour penser, puis... Une...
Qu'est-ce que tu penses qui fait que les gens... vous aborde des fois différemment? Est-ce que tu penses que c'est relié à la peur de déranger ou de mal faire?
Peut-être un mélange des deux.
Oui.
Oui. Je pense que c'est un mélange des deux. Des fois, je sais pas, il y a des gens qui voient, tu sais, qu'on a de la misère, soit pour rentrer quelque part, tenir une porte, ou puis ils viennent pas nous aider parce qu'ils se disent... Mais peut-être qu'elle veut le faire elle-même, tu sais, elle veut être indépendante. Ouais. Puis elle... Mais non, tu sais, ça nous aide, puis c'est tout, là. C'est...
Puis j'imagine que si t'as pas besoin d'aide, tu peux le dire, oh, ouais. le nommer à la personne.
Ben c'est ça, tu sais. Mm. On a une tête, puis on a une bouche aussi pour...
Oui, 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 oui.
Fait que...
J'imagine que c'est ça, on peut avoir peur de mal faire. On veut bien faire, peut-être, puis il y a des gens que ça les coupe dans l'approche.
Oui, c'est ça. Ils savent pas comment faire.
Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Ben, de juste venir nous voir puis nous demander. Mm. Avez-vous besoin d'aide? Je peux-tu faire quelque chose pour t'aider?
Mm-hmm.
C'est ouais. pas sorcier, là. On n'est ouais. pas des monstres.
Ben non. Ben non, mais j'imagine que parfois, dans le regard de l'autre, on peut avoir cette impression-là, puis c'est pour ça que tu as autant appris à faire fi du regard des autres, puis tu insistes sur ce point-là,
ouais,
j'imagine. Oui, mm.
ouais, j'ai appris à m'aimer moi-même, puis à faire les choses que je voulais faire ouais. pour moi, puis c'est ça.
Puis tu me donnais un autre exemple tout à l'heure là, de comment des fois les gens t'abordaient. Tu me disais que quand tu étais avec quelqu'un d'autre, parfois, on ne s'adressait pas à toi.
Non. Puis ça, c'est vraiment insultant.
Mm.
Que des fois, je vais quelque part avec quelqu'un, puis j'ai besoin d'informations. Puis la personne à qui je me suis adressée ne va pas me répondre à moi. Il va répondre à la personne qui est avec moi. Mais c'est parce que c'est moi qui ai posé les questions. C'est moi qui veux l'information. C'est moi qui veux la réponse. Ouais.
Est-ce que tu penses que ça peut être relié, ça, justement, avec le fait que, par exemple, bon, tu as un handicap, des fois, une certaine difficulté d'élocution. Donc, ils font un lien, justement, avec la déficience intellectuelle dont on parlait tantôt. Mm. Et là, ils choisissent d'aller parler, d'aller répondre avec la personne qui t'accompagne.
Oui.
Ça doit être infantilisant quand même. Comme
Vraiment. C'est... Ouais.
Puis, avec une personne qui a une déficience intellectuelle, on n'a pas besoin de pas les considérer ou de leur parler différemment. Puis on est tous des humains.
Mm.
Puis on peut tous se parler
ouais.
comme tel.
Mm.
Mm.
Je trouve que les gens sont pas assez... comment je pourrais dire...
Informé, peut-être?
sont, ils ont, on dirait que les gens ils n'ont pas assez conscience que, oui, la personne a un fauteuil roulant, mais c'est un être humain pareil.
Mm-hmm.
Puis elle, tu sais, je veux dire, comme, mettons, deux amis. Bon, il y a un des deux qui pogne un accident, qui se retrouve en fauteuil roulant.
Mm-hmm.
Son ami, vas-tu y parler en bébé? Je pense pas, là.
Non.
Tu sais?
Effectivement.
C'est...
Effectivement.
Je trouve ça dommage.
Oui. Du côté plus de comment on en parle dans la société, bon, premièrement, il y a sûrement autant de peur puis de malaise, peut-être parce qu'il manque de visibilité?
Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans la société.
Mm-hmm.
Tu sais, on dit pas assez c'est quoi une personne qui a un fauteuil roulant. Puis c'est pas assez... Pas valorisé, mais c'est pas assez...
Normalisé, peut-être?
Ouais. Tu sais, on dit que les gens... Je te dirais, là, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que juste le mot handicap, c'est tabou.
Mm. Mm.
C'est comme... Non, faut pas en parler, ça.
Ouais.
Ouais.
Tu disais tantôt que un sentiment que tu ressentais, c'est d'être en marge de la société, d'être à part, peut-être un peu comme invisibilisé, justement, parce que c'est tabou, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, puis parce que la vie n'est pas adaptée.
Non.
Hein? Il y a toujours eu des personnes handicapées ou à mobilité réduite, et pourtant, on a construit des infrastructures qui sont inaccessibles. On a construit... Des endroits...
Sans penser à un accès pour pouvoir entrer.
À une partie de la population.
Oui.
Parle-moi un peu d'accessibilité, justement. C'est un sujet très important pour toi.
Oui. Je trouve que les commerçants sont pas assez sensibilisés à la cause. Ben pas la cause, mais je veux dire... Le fait qu'il y a des fauteuils roulants. Puis, je suis même déjà allée dans un restaurant, je dirais pas lequel, puis j'ai dit, pourquoi il n'y a pas de rampe? Tu sais, pourquoi il n'y a... Ben, il n'y a personne en fauteuil roulant qui vient ici, madame. C'est parce que si tu avais une rampe...
Oui.
Tu sais que...
Évidemment, il n'y a personne en fauteuil roulant. Il y en aurait
du monde en fauteuil qui viendrait... T'enverrais si tu mettrais une rampe.
C'est ça, c'est qu'en rendant les lieux pas accessibles, ben on voit pas les gens en fauteuil roulant parce qu'ils sont pris pour rester chez eux.
C'est ça. Mmh. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'on a un fauteuil roulant ou une marchette ou une canne ou peu importe qu'on veut rester en cabanet chez nous. Mmh. Puis nous autres aussi, on veut participer à la vie active de la société.
Ouais.
On veut... On a besoin de sortir, nous autres aussi. On a besoin de faire des choses.
Oui, puis de s'impliquer. Puis vous avez, tout le monde a son apport, sa contribution à la société.
Oui.
En termes d'accessibilité, quels endroits sont accessibles pour toi?
Je te dirais accessible, c'est les épiceries.
Oui.
Les épiceries sont accessibles,
mm-hmm.
mais les magasins...
ça l'est pas.
Si tu veux du linge, là, ou tu veux... Comme moi, tu sais, on l'a dit tantôt, je fais de la peinture. Il y a juste un endroit à Gaspé que je peux acheter des toiles, puis de la peinture, puis le matériel qu'il me faut pour faire ma peinture. Puis c'est pas adapté.
Non.
Fait que moi... Je suis pas gênée de le dire. Je commande sur Internet.
Ouais.
Je veux dire, si je veux des choses pour peinturer, il faut que je commande sur Internet.
Oui. Parce que tu peux pas te rendre dans les magasins. Au niveau des restaurants aussi, il y a pas beaucoup de restaurants qui sont adaptés.
Il y a... Non. Il y avait le Tétu. Il y a le Beaver.
OK, oui.
Il y a le Brisbee's.
Mm-hmm.
Parce que j'ai demandé à Simon Poirier, le propriétaire, de faire une rampe. Puis, il en a fait une. Fait que je me dis, lui, là, Simon, c'est un bon exemple à suivre.
Oui.
Il a fait une rampe amovible. C'est-à-dire que quand j'y vais, ou une autre personne en fauteuil roulant, elle demande, puis ils vont sortir la rampe.
Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est possible de le faire.
C'est ça. Puis je me dis, si lui l'a fait, pourquoi les autres le font pas?
Ouais.
Je veux dire, c'est pas...
Il y a les stationnements également qui sont problématiques.
Oui, les stationnements, il y a beaucoup de gens qui les prennent puis que ils ont pas nécessairement le droit de les prendre.
Mm-hmm.
Puis, j'étais venue cet été avec Sylvie. On avait rencontré Yannick et Dave pour parler de, justement, on faisait passer une pétition pour... Mm-hmm. Les stationnements et l'accessibilité. On a réussi à faire passer l'amende de 30 $ à 200, ce qui n'est pas rien, pas rien du.
Ouais. Est-ce que tu as vu une petite différence jusqu'à maintenant?
Pas vraiment, mais j'ai entendu parler. Il y a quelqu'un qui a pris un stationnement handicapé en face de la banque sur la rue de Lyme. Puis, il a payé un ticket de 300 pièces.
Ouh! 300 $ Donc, ça fait réfléchir ceux qui n'y réfléchissent pas autrement.
Ouais.
Ouais.
Tu sais, juste aller passer 5 minutes au guichet, sortir de l'argent, puis t'arrives, il faut que tu payes un ticket de 300. Ouais. Puis, je pense qu'il va y repenser avant de prendre un parking handicapé.
C'est dommage, par exemple, qu'on doive se rendre... à là oui, pour que vraiment. Ces gestes-là soient faits. Est-ce que tu penses que les gens comprennent pas l'ampleur de l'importance d'un stationnement handicapé? Veux-tu nous dire pourquoi c'est si important d'avoir cette place-là?
Ben c'est important parce que... Tu sais, un fauteuil roulant, on n'oublie pas que... Je veux dire, la plupart des gens, ils ont un fauteuil roulant manuel.
Mm-hmm.
Fait qu'il faut rouler ses roues pour avancer.
Ouais. Ouais.
Si t'es parqué, freine l'autre bout du parking, là. Faut que tu roules pour rentrer au magasin ou à l'épicerie. Ça fait mal aux épaules.
Puis la saison aussi.
Oui. L'hiver, là, oublie ça, tu peux pas rouler dans la neige, là.
La neige, la glace, les motons de glace laissés par les voitures qu'on a vues tout à l'heure. Il y a ça, mais il y a aussi pour sortir du véhicule.
Oui. Les petites lignes assurées, là, dans le côté du parking,
oui.
C'est pas là pour rien.
C'est ça. On peut pas piler là-dessus, là.
Quand tu ouvres ta porte, faut que tu mettes ton fauteuil sur ces petites lignes-là, justement, pour que tu puisses sortir.
Oui.
Fait que s'il y a un char, s'il y a une auto stationnée sur ces petites lignes-là, comment qu'on fait pour sortir de l'auto, nous?
Exactement.
Oublie ça, là. Tu peux pas sortir de l'auto.
Puis c'est pour ça qu'ils sont faits plus larges également?
Oui, oui. Les parkings sont plus larges.
C'est justement pas
pour nous donner la chance de pouvoir sortir notre véhicule.
Oui, exactement.
Il
y a aussi... Il y a parfois des gens qui font des modifications à leur établissement pour les rendre accessibles, sans toutefois les rendre vraiment accessibles.
Non, c'est ça. Des fois, tu arrives pour... Tu sais, tu peux monter une rampe, puis la porte, elle s'ouvre de ton côté. Ça en vient vers toi.
Et on se rappelle qu'on est sur roue dans une pente.
C'est ça. Fait que tu fais quoi? Tu lâches la porte ou tu lâches tes roues? Si tu lâches tes roues, ton fauteuil part.
Ouais.
Puis tu restes accroché à sa porte. Oui.
Oui. Je m'excuse, j'en ris, mais parce que c'est absurde dans un
sens.
Non,
c'est ça. C'est pas pensé.
Non.
Moi, à chaque fois qu'il y a un commerçant veut faire adapter son endroit, je me dis, ça existe des ergothérapeutes.
Oui.
Pourquoi pas faire appel à un ergothérapeute? Puis dire, ben gars, si je te fais comme ça, ça va-tu être utile?
Ouais.
Vont-tu bien pouvoir,
ouais,
l'utiliser,
ouais.
Ça va-tu être accommodant,
ouais,
pour eux autres?
Oui, c'est vrai. Puis tu m'avais parlé un jour aussi d'un endroit où on avait une porte automatique, mais où le bouton de la porte était beaucoup trop loin pour avoir le temps de se rendre.
Oui. Ça, c'est... Et là, là.
Donc là, t'arrives à la porte, c'est... puis elle est déjà fermée?
Ben c'est ça. Tu sais, tu vas passer sur le bouton, puis t'arrives à la porte pour sortir. Et là, tu vois les portes se refermer sur toi. Ouais, c'est... j'ai de la misère avec ça. C'est...
Ouais.
Ça n'a pas été pensé...
Non, il y a beaucoup de travail à faire, hein, Jenny?
Ouais.
Ouais.
Puis, tu sais, encore une fois, je le rappelle, les ergothérapeutes sont là pour ça. Pour dire... Si vous faites ça comme ça, ça va marcher.
Ouais.
Ça va être utile pour eux autres. Ils, ouais, vont pouvoir...
Ouais, on oublie de considérer cette partie-là, de se dire, est-ce que c'est bien fonctionnel, utilisable?
Ouais. T'sais, pas juste le faire pour le faire. Le faire pour que ce soit... Pour que la personne en fauteuil roulant, elle puisse vraiment rentrer. Et mm-hmm. pas... Pas juste en apparence.
Ouais.
Oh, on a fait une rampe. Ben oui, mais c'est parce que je peux même pas le montrer, la rampe. T'sais, au lieu d'en faire une que tu peux pas utiliser, mais fais-en pas pantoute.
Ouais, c'est moins insultant.
C'est ça, c'est moins insultant. T'sais?
Ouais. Fait belle réflexion. Puis.
Ah, puis il y a une autre affaire qui m'agace un petit peu. C'est, tu sais, des fois, vu que nous autres, on a un fauteuil roulant, les gens, des fois, ils viennent nous voir. Puis, tu sais, on parle avec eux, puis tout. Puis, ils disent, ah, oh, tu dois connaître un tel. Non.
Ah,
oh, ben lui-ci, il a un fauteuil roulant. Comment ça, tu le connais pas?
Ah, ouais.
Ben, c'est pas parce qu'on a un fauteuil roulant qu'on connaît tout le monde qui a un fauteuil roulant.
Ah oui, c'est... on fait un rapprochement comme ça.
Oui, puis ça m'agace parce que...
Comme si, après ton activité, tu retournais au pays des fauteuils roulants.
Oui, c'est ça. C'est comme si les fauteuils roulants, on habitait tous sur un île.
Vous étiez la gang des fauteuils roulants.
C'est ça.
Ensemble.
Oui.
Ouais.
Puis tu sais, c'est comme... Je vais prendre un autre exemple aussi.
Oui, vas-y.
Qu'il y en a qui font. Ça, je trouve ça drôle aussi. C'est des fois, il y a du monde qui vont aller voir d'autres personnes. Ou, tu sais, mettons là, que tu vas en ville.
Ouais.
Puis là, tu rencontres du monde. Tu joues avec eux autres. Puis là, tu dis, ah, moi, je suis gaspésien. Puis là, ils vont te dire, ouais, mais tu connais-tu un tel?
Oui, c'est vrai.
Ben, il reste où? Ah, il reste Gapcha. Gaspé, c'est pas à côté. Capcha.
Oui, oui, oui. C'est
pas parce que t'es gaspésien que...
Qu'on connaît tous les gaspésiens.
C'est ça, tu sais.
Non, contrairement aux rumeurs, on n'est pas tous cousins.
C'est
ça. Oui, donc ouais, c'est la même image un peu pour deux situations différentes, mais je ne savais pas que les gens faisaient ce rapprochement-là,
ouais,
comme ça.
Oui, il y en a qui font ça.
Oui, oui, oui. Merci, Jenny, de tout ce que tu nous témoignes là.
Merci. À vous autres.
Je te l'ai dit, tu me fascines de par cette force-là que tu as de te lancer dans l'action constamment, de faire énormément de choses, d'essayer plein de choses, d'être capable de demander aussi.
Oui.
Tu as dépassé la peur de déranger.
Oui.
De dire, ouais. Hey, je veux faire cette activité-là, ben j'aurais besoin de ça. Est-ce que s'il y a un message que tu voudrais lancer à d'autres personnes qui ont des diagnostics comme toi ou un handicap?
Je dirais de... La personne la plus importante, c'est soi-même.
Mm.
Puis, faut penser à nos besoins. C'est comme moi, j'ai une maladie dégénérative. Ma maladie, elle dégénère. Fait que, oui, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire plein de choses. Mais j'ai appris à... Parce que moi, je suis une fille très, très orgueilleuse. Mais j'ai appris à dire, ben c'est important pour moi, c'est important dans ma vie d'avoir de l'aide pour faire les choses que j'aime.
Oui, continuer à t'épanouir.
Oui. Donc, je vais surpasser mon orgueil.
Mm.
Puis, justement, le dire. Ben j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un livre. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire ça. J'ai envie de faire ça, mais il faudrait...
Mm-hmm.
Fait que, oui, je vais demander, puis je vais dire mes besoins. C'est quoi que j'ai besoin? Puis je dirais à tout le monde que... sûrement qu'il y a du monde comme moi qui sont orgueilleux, puis qui sont entêtés, puis que, tu sais, qu'ils veulent tout faire par eux-mêmes. Mais que un moment donné, il faut que tu réalises que non, ça ira pas de ça.
Mm.
Je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'aider à faire ça.
Mm.
Fait que ouais, je dirais à tout le monde de passer par-dessus votre orgueil ou votre tête de cochon ou peu importe, mais de demander ce que vous avez besoin.
Ouais. T'es un bel exemple de ça, d'une femme fonceuse qui merci. Accumule les expériences de vie.
Ouais.
Comme on a dit, tout ce que tu faisais.
Mm.
Justement, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on a plus d'opportunités.
Mm.
Puis, tu me disais tout à l'heure que quand tu as eu ton diagnostic à l'âge de 19 ans, tu voyais pas un avenir ou toute une possibilité.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que tu dirais à Jenny, 19 ans, qui vient de recevoir son diagnostic?
Ben que finalement, tu vas avoir un bel avenir.
Ouais.
Tu as des belles années devant toi.
Est-ce que tu crois qu'à 19 ans, tu y aurais cru?
Non, pas du tout. Quand je l'ai su à 19 ans, je voulais plus rien savoir.
Mm.
Je voulais pas passer de test, je voulais pas voir d'autres docteurs, je voulais plus rien savoir. Je me disais, ma vie est finie, je vais mourir. Puis,
mm-hmm.
Mais non, c'est ça, j'ai eu des belles années devant moi. Puis je suis sûre que j'en ai encore.
On parle de tout ce qui a été beau, des beaux côtés, mais c'est sûr que des fois, c'est normal de se sentir impuissant puis de se sentir frustré. Tu ouais. disais que tu vas défouler ce sentiment-là un peu de frustration par rapport à ta maladie, ton état, à la boxe.
Oui.
Puis également, t'as des endroits pour en parler puis ventiler.
Mm. Ben, présentement, je vois un psychologue.
Mm-hmm.
Fait qu'on parle pas mal toutes sortes de choses. Pas juste la maladie, mais moi, comment je prends ça, puis tout.
Ouais.
Puis, une chose aussi que j'ai... qui est pas nécessairement reliée à les gens... en fauteuil roulant,
mm-hmm.
mais c'est quelque chose que j'ai dans ma tête, puis que je pense que ça partira jamais. Ben, comme on l'a dit tantôt, moi j'ai une maladie dégénérative.
Oui.
Puis j'en parle souvent avec mon psychologue, puis avec les gens autour de moi.
Mm-hmm.
Ils sont au courant de ça. J'ai fait mon testament, j'ai payé mes frais funéraires, j'ai fait tout ça.
Oui.
Aussi, une chose, que la chose que je disais tantôt qui est dans ma tête puis qui partira sûrement jamais, c'est l'aide médicale à mourir.
Mm.
Je dis pas que je suis suicidaire ou que je vais me jeter en bas du pont. Mais je me dis, quand la maladie sera au point où je n'aurai plus de qualité de vie, j'aimerais avoir l'aide médicale à mourir.
Mm-hmm.
Puis, comme je l'ai dit, je ne suis pas suicidaire. Non. Loin de là, là, avec la vie que je mène en ce moment.
Oui. Mais tu es réaliste là, de ton ouais, futur à un certain ça. Point. Puis tu te questionnes, c'est normal.
Mm. Puis mes limites sont déjà posées.
Ah oui?
Tu sais, je sais que Michel à tel point, oh non, ça là, je pourrais jamais accepter mm-hmm. ça. Ben, ça serait...
Ouais.
Puis justement, ça a passé aux nouvelles dernièrement. Sont en train de retravailler sur la loi. Puis ils veulent élargir les critères d'admissibilité. Parce que présentement, dans la loi, il y a 4 critères pour être admissible à l'aide médicale à mourir. Je me rappelle pas des 3 autres, mais je sais qu'il y en a un, c'est qu'il faut être en fin de vie.
Ouais.
Mais moi, je suis pas en fin de vie.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, je suis pas en train de mourir.
OK. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, comme la loi est là, avec ce critère-là, tu ne pourras pas y accéder.
C'est ça.
Même plus tard, quand ta maladie va avoir dégénéré. Parce que tu seras mais pas là, nécessairement en mais, fin de vie.
Ouais, c'est ça. Mais justement, ce critère-là, être en fin de vie, ils veulent l'enlever.
OK.
Pour rendre ça plus accessible à plus de monde. C'est sûr que quand tu demandes l'aide médicale à mourir, il faut que tu vois des professionnels.
Ouais.
Tu sais, psychologue, psychiatre, pour voir si ta décision est vraiment réfléchie, qu'il n'y a personne qui te pousse à, à le faire. Tu sais, il n'y a personne qui dise, ben là, tu sais, tu commences à être du travail pour nous autres.
Ouais.
Faudrait peut-être que, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que, moi, il y a des professionnels qui viennent nous voir pour être sûr que c'est notre décision à nous autres.
Ouais.
Puis qu'il n'y a personne qui nous a influencés.
Mm-hmm.
Puis moi, j'espère, pour moi et pour tous les autres qui veulent avoir recours à ça, que la loi va changer, soit qu'ils ont un cancer, une maladie dégénérative. Comme moi, ma grand-mère est décédée dernièrement, puis elle avait le cancer des poumons.
Mm-hmm.
Puis elle a souffert. Mais elle aurait pu demander de l'aide médicale à mourir.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Puis il y a un des cousins à ma mère qui avait un cancer. Puis lui a demandé de l'aide médicale à mourir. Mm. Puis il l'a eu. Il mange chez lui avec toute sa famille.
Ouais.
Je trouve que c'est une belle chose.
Oui.
Tu sais, quand on dit mourir dans la dignité,
mm-hmm.
ouais, c'est...
Puis j'imagine, est-ce que ça t'apaise dans le présent quand tu dis que c'est possible?
Oui. Mm. Oui, vraiment. Oui. Parce que je me dis, quand je vais trop souffrir ou que, justement, j'aurai plus de qualité de vie, ben je vais avoir une solution. Mm-hmm. Puis dire que ça suffit, là, j'ai assez souffert, je suis prête à partir.
Oui.
Ouais, fait que...
Ça pourrait être bien fait avec les gens que t'aimes.
Puis... C'est ça.
Merci énormément, Jenny, pour tout ton témoignage.
De rien.
Comment on en parle est un podcast réalisé par Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À l'animation et à la réalisation, Joliane Bourget-Carreau. À la coordination, Émilie Gagné. Pour plus d'épisodes de Comment on en parle, visitez le radiogaspésie.ca dans la section podcast.